Angeline ou la maison hantée, par Émile Zola. Chapitre 1. Il y a près de 2 ans, je filais à bicyclette par un chemin désert, du côté d'Orgeval, au-dessus de Poissy, lorsque la brusque apparition d'une propriété au bord de la route me surprit tellement que je sautai de la machine pour mieux la voir. C'était sous le ciel gris de novembre, dans le vent froid qui balayait les feuilles mortes, une maison de briques, sans grand caractère, au milieu d'un vaste jardin planté de vieux arbres. Mais ce qui la rendait extraordinaire, d'une étrangeté farouche qui serrait le cœur, c'était l'affreux abandon dans lequel elle se trouvait. Et, comme un ventail de la grille était arraché, comme une immense écriteau, déteint par les pluies, annonçait que la propriété était à vendre, j'entrai dans le jardin, cédant à une curiosité mêlée d'angoisse et de malaise. Depuis 30 ou 40 ans peut-être, la maison devait être inhabitée. Les briques des corniches et des encadrements, sous les hivers, s'étaient disjointes, envahies de mousse et de lichen. Des lézardes coupaient la façade, pareilles à des rides précoces, sillonnant cette bâtisse solide encore, mais dont on ne prenait plus aucun soin. En bas, les marches du perron, fendues par la gelée, barrées par des orties et par des ronces, étaient là comme un seuil de désolation et de mort. Et surtout, l'affreuse tristesse venait des fenêtres sans rideaux, nues et glauques, dont les gamins avaient cassé les vitres à coups de pierre, toutes laissant voir le vide morne des pièces, ainsi que des yeux éteints, restés grands ouverts sur un corps sans âme. Puis, alentour, le vaste jardin était une dévastation. L'ancien parterre, à peine reconnaissable sous la poussée des herbes folles, les allées disparues, mangées par les plantes voraces, les bosquets transformés en forêts vierges, une végétation sauvage de cimetière abandonnée dans l'ombre humide des grands arbres séculaires, dont le vent d'automne, ce jour-là, hurlant tristement sa plainte, emportait les dernières feuilles. Longtemps, je m'oubliais là, au milieu de cette plainte désespérée qui sortait des choses, le cœur troublé d'une peur sourde, d'une détresse grandissante, retenue pourtant par une compassion ardente, un besoin de savoir et de sympathiser avec tout ce que je sentais autour de moi, de misère et de douleur. Et lorsque je me fus décidé à sortir, ayant aperçu de l'autre côté de la route, à la fourche de 2 chemins, une façon d'auberge, une masure où l'on donnait à boire, j'entrai, résolu à faire causer les gens du pays. Il n'y avait là qu'une vieille femme, qui me servit en geignant un verre de bière. Elle se plaignait d'être établie sur ce chemin écarté, où il ne passait pas 2 cyclistes par jour. Elle parlait indéfiniment, contait son histoire, disait qu'elle se nommait la mère Toussaint, qu'elle était venue de Vernon avec son homme pour prendre cette auberge, que d'abord les choses n'avaient pas mal marché, mais que tout allait de mal en pis depuis qu'elle était veuve. Et après son flot de paroles, lorsque je me mis à l'interroger sur la propriété voisine, elle devint tout d'un coup circonspecte, me regardant d'un air méfiant, comme si je voulais lui arracher des secrets redoutables. Ah oui, la sauvagière, La maison hantée, comme on dit dans le pays. Moi, je ne sais rien, monsieur. Ce n'est pas de mon temps. Il n'y aura que 30 ans à Pâques que je suis ici. Et ces choses-là remontent à 40 ans bientôt. Quand nous sommes venus, la maison était à peu près dans l'état où vous la voyez. Les étés passent, les hivers passent, et rien ne bouge, si ce n'est les pierres qui tombent. Mais enfin, demandai-je, pourquoi ne la vend-on pas, puisqu'elle est à vendre? Ah, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que je sais? On dit tant de choses. Sans doute, je finissais par lui inspirer confiance. Puis, elle brûlait de me les répéter ces choses qu'on disait. Elle me conta, pour commencer, que pas une des filles du village voisin n'aurait osé entrer à la sauvagière, après le crépuscule, parce que le bruit courait qu'une pauvre âme y revenait la nuit. Et comme je m'étonnais que si près de Paris, une pareille histoire put encore trouver quelques créances, elle haussa les épaules, voulut d'abord faire l'âme forte, laissa voir ensuite sa terreur inavouée. Il y a pourtant des faits, monsieur. Pourquoi ne vend-on pas? J'en ai vu venir des acquéreurs, et tous s'en sont allés plus vite qu'ils ne sont venus. Jamais on n'en a vu reparaître un seul. Eh bien, ce qui est certain, c'est que dès qu'un visiteur ose se risquer dans la maison, il s'y passe des choses extraordinaires. Les portes battent, se referment toutes seules avec fracas, comme si un vent terrible soufflait. Des cris, des gémissements, des sanglots montent des caves. Et si l'on s'entête, une voix déchirante jette ce cri continu. « Angéline, Angéline, Angéline !» Dans un appel d'une telle douleur qu'on en a les os glacés. Je vous répète que c'est prouvé. Personne ne vous dira le contraire. J'avoue que je commençais à me passionner, pris moi-même d'un petit frisson froid sous la peau. Et cette Angéline, qui est-ce donc? Ah, monsieur, il faudrait tout vous conter. Encore un coup, moi, je ne sais rien. Cependant, elle finit par tout me dire. Il y avait 40 ans, vers 1858, au moment où le Second Empire triomphant était en continuelle fête, monsieur de G, qui occupait une fonction aux Tuileries, perdit sa femme, dont il avait une fillette d'une dizaine d'années, Angéline, un miracle de beauté, vivant portrait de sa mère. 2 ans plus tard, monsieur de G se remariait, épousait une autre beauté célèbre, veuve d'un général. Et l'on prétendait que, dès ses secondes noces, une atroce jalousie était née entre Angéline et sa belle-mère. L'une frappée au cœur de voir sa mère déjà oubliée, remplacée si vite au foyer par cette étrangère. L'autre, obsédée, affolée d'avoir toujours devant elle ce vivant portrait d'une femme qu'elle croyait de ne pouvoir faire oublier. La sauvagière appartenait à la nouvelle Madame de G. Et là, un soir, en voyant le père embrasser passionnément sa fille, elle aurait, dans sa démence jalouse, frappé l'enfant d'un tel coup que la pauvre petite serait tombée morte, la nuque brisée. Puis le reste devenait effroyable. Le père, éperdu, consentant à enterrer lui-même sa fille dans une cave de la maison pour sauver la meurtrière, le petit corps restant là enfoui durant des années, tandis qu'on disait la fillette chez une tante. Les hurlements d'un chien, qui s'acharnait à gratter le sol, faisaient enfin découvrir le crime, dont les Tuileries s'étaient empressées d'étouffer le scandale. Aujourd'hui, monsieur et madame de G étaient morts, et Angeline revenait encore chaque nuit aux appels de la voix lamentable qui l'appelait de l'au-delà mystérieux des ténèbres. « Personne ne me démentira, » conclut la mère Toussaint. « Tout cela est aussi vrai que deux et deux font quatre. » Je l'avais écouté, effaré, choqué par des invraisemblances, mais conquis cependant par l'étrangeté violente et sombre du drame. Ce monsieur de G, j'en avais entendu parler. Je croyais savoir qu'en effet, il s'était remarié et qu'une douleur de famille avait assombri sa vie. Était-ce donc vrai? Quelle histoire tragique et attendrissante! Toutes les passions humaines remuées, exaspérées jusqu'à la démence, le crime passionnel le plus terrifiant qu'on pût voir. Une fillette belle comme le jour, adorée et tuée par la marâtre, et ensevelie par le père dans un coin de cave. C'était trop beau d'émotion et d'horreur. J'allais questionner encore, discuter. Puis je me demandais à quoi bon, pourquoi ne pas emporter dans sa fleur d'imagination populaire ce conte effroyable. Comme je remontais à bicyclette, je jetai un dernier coup d'œil sur la sauvagière. La nuit tombait, la maison en détresse me regardait de ses fenêtres vides et troubles, pareilles à des yeux de morte. Pendant que le vent d'automne se lamentait dans les vieux arbres.